Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lauriers. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
Bonsoir, en manchette ce soir, on a des drogués pas débrouillards, du terrorisme passé et pas vraiment présent, et une bonne nouvelle, et les chroniqueurs suivants se dégagent de toute responsabilité. Jean-Sébastien Godette, Mathieu Boudreau, Audrey Deschaines et Damien Blas-Bouchard, ainsi que notre invité Alain Deneau, vous êtes à 70%. Salut Bruno!
Hey, salut!
Comment ça s'est passé ta semaine?
Ah, tu sais, je jardinage pis tout, là.
Ben, on se voit plus, tu fais du jardinage à ce
moment-là. Ouais, à la place d'aller te voir, c'est ça.
Ouais, ben, c'est correct, ouais. C'est constructif.
Ben oui.
Ouais, c'est sûr.
C'est comestible.
C'est comestible et constructif. Voilà. Est-ce que tu viens demain au buffet pour les intestins de Andy?
Je me dégage de toute responsabilité légale. Okay.
Donc, très content de vous revoir tout le monde à un autre 70%, un podcast enregistré live au Brouhaha à chaque lundi. À partir de maintenant, on va vivre quelque chose qu'on ne vit pas d'habitude. On a un invité qui est un petit peu comme pas dans la même case que d'habitude on prend. Quoique, en même temps, non, on va l'applaudir d'abord. Mesdames et messieurs, Alain Deneau, s'il vous plaît! Donc... philosophe, essayiste de renommée internationale, quand même, on fait rayonner le Québec, c'est de toute beauté. On va commencer, on va se dire les vraies affaires, si tu permets. Les vraies affaires. Dis-moi les vraies affaires.
Les vraies affaires?
Ouais, c'est bon, merci. Donc, moi et Alain Deneau, on vient de se dire les vraies affaires en public. Je vais mettre ça sur mon CV, hein, sapristi. Philosophie, avant, il y avait comme une connotation d'humoriste avec ça, de prendre la vie avec légèreté et tout. Est-ce que t'as encore l'impression que ça tient, cette idée-là?
Bah, ça a pu être une représentation qu'on a eue à l'époque où il n'y avait aucun philosophe digne de ce nom qui prenait la parole publique au Québec. On a eu dans les années 70-80 quelqu'un qui sévissait sous cette appellation qui était dénommé Moreau, je crois, qui se présentait comme étant jovialiste et qui était un amuseur public, mais qui nuisait beaucoup, au fond, à toute une, finalement, à toute une, tout un secteur de la vie humaine, quoi, qui est la pensée conceptuelle. C'est-à-dire que si on nous disait qu'un un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des cabanes de bois dans une arrière-cour, on ne saurait pas qu'on peut construire des ponts. Et c'est un petit peu ce qu'a fait cet énergumène avec la philosophie. C'est qu'il a convaincu toute une population que la philosophie, c'était une affaire stupide, de doux rêveurs, de gens qui contemplent les astres et qui disent n'importe quoi en utilisant les mots du dictionnaire conceptuel sans les comprendre.
C'est l'époque du Nouvel Âge aussi.
Exactement, tout à fait. Alors que la philosophie est une discipline qui consiste à créer des concepts, c'est-à-dire à penser avec des termes particuliers, des ensembles complexes, dans le but de les rendre accessibles à la pensée. Pas dans le but de les complexifier, mais au contraire, dans le but de les saisir.
Moi, quand j'étais au cégep, j'ai eu mes premiers cours de philosophie et je me suis dit que l'ergonomie était pour être comme la science de l'avenir. Puis là, on m'a dit que non, ça s'appelle du design, ça, la manière que je concevais le mot. Et là, je me suis aperçu en grandissant que dans le fond, c'est bien plus la sémantique qui devient comme l'espèce de science qui rattache tout ça, me semble.
Ben la science, quand bon moi j'apparle en philo, il y a beaucoup de courants, là, disons pour aller vite.
Ben avant c'était tout aussi. Avant, un philosophe c'était un mathématicien qui peignait, qui.
Disons que depuis la modernité, il y a des courants là, qui peuvent aller du positivisme à la pensée critique, en passant par les approches déconstructivistes. Je ne vais pas les décliner toutes, mais moi, je suis plutôt dans un courant critique. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les discours scientifiques, les discours politiques, les discours médiatiques au sens un peu courant, là, sont déterminés par des enjeux de pouvoir, par des logiques de domination, par des intentions qu'évidemment, ce vocabulaire-là, le sémantique qu'on nous sert à l'école, dans les médias,
c'est un peu une prison de
dans la politique, oui, nous amène à penser de la façon dont le pouvoir souhaite qu'on pense. Quoi. On met de la merde dans le cerveau pour aller vite. Là. C'est-à-dire qu'on on conditionne le rapport qu'on a au monde pour nous faire voir le monde d'une certaine façon en nous donnant l'impression que cette approche-là est la seule possible.
J'adore ça.
Et la pensée critique consiste à déplacer le regard et avoir conscience du processus.
Étirer la boîte aussi un petit peu, des fois étirer un coin de la boîte ou juste de changer d'angle pour voir les choses.
Tout à fait. Et c'est très cinématographique en effet.
Effectivement.
Parce que l'idéologie consiste en un cadrage et une mise en perspective.
Et voilà.
C'est-à-dire qu'on va vous faire voir les choses d'une certaine façon. Il va y avoir une espèce de grand Manitou là, qui va vous dire là, vous ne travaillez pas assez. Les Québécois travaillent pas assez. Il faut qu'ils travaillent plus.
Et là,
exemple fortuit.
Les exemples ont des noms.
C'est ça. Et donc, quand on cadre les choses comme ça, en fait, on fait voir le monde d'une certaine façon et on enferme la pensée dans une perspective.
Officiel.
C'est tout à fait cinématographique.
Officiel.
Alors que la pensée critique, si on travaille de manière la métaphore, là, consiste à repenser complètement l'angle de la caméra, pour ainsi dire, la perspective, de façon à trahir, au fond, les processus anciens, un petit peu comme François Truffaut a pu filmer le cinéma ou comme Jean-Luc Godard a pu filmer la façon dont le langage apparaît au monde. On filme la pensée. Quoi.
Est-ce que tu es un cinéphile aguerri? Est-ce que, genre, les dieux d'Égypte, t'en penses quoi?
J'avais un ami qui disait « Je suis pas cinéphile, j'aime le cinéma. » Mais c'est parce qu'il critiquait, mais je pense pas que ça vous concerne ici, mais il critiquait la cinéphilie officielle.
Il y a vraiment une gentrification.
S'enfermait dans une sorte de savoir très scientifique.
Mon interprétation de Kubrick est beaucoup plus grosse que la tienne.
Ouais, ça peut être aussi culturiste que ça. Alors que, non, mais disons que le cinéma peut être une source de. Finalement, d'exemple, quoi, pour exemplifier un certain nombre de choses.
Oui,
mais
je
ne me présenterai pas comme
un
cinéphile.
Bon référent. On peut dire, il y a quelqu'un qui a fait ça, ou comme dans le film qu'on va voir d'ailleurs, je veux que tu nous en reparles tantôt, il y a vraiment tous les exemples. On savait, mais on ne savait pas pourquoi. Le système nous a parlé, mais on n'a peut-être pas mis les pièces du puzzle en place. Donc, sinon, il faut passer par là, c'est vrai. Est-ce que tu joues à Magic?
Non.
Non, ok, c'est bon. Quelle surprise.
Est-ce que je déçois personne.
Est-ce que ça l'aide avec les filles d'être docteur en philosophie?
Oh, ben si on peut prendre. Moi, j'ai un travers, je prends toutes les questions au sérieux. Alors, je vais prendre celle-là au sérieux.
Ah,
aussi.
Mais très sérieuse, voyons-nous. Tu pourrais peut-être encourager deux personnes à venir ça.
Non, mais prenons les choses de manière très générale. Il y a un cliché qui veut que la séduction soit une affaire très cosmétique. Même plus qu'esthétique, mais cosmétique, c'est-à-dire qu'elle correspond à des types très normés de la culture, alors que la séduction est beaucoup une affaire de langage, en fait. C'est beaucoup une affaire d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence séduit. Et on a tendance à minimiser cette part-là des choses quand on pense la séduction sur un mode un peu trop expéditif.
Tu es en train de me dire que ça l'aide avec les filles.
Je sais pas, essayez-le.
D'une manière détournée, là, ouais.
Sinon, ben, on vit une époque spéciale pour la culture, vraiment. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Disney est comme en train d'acheter tout ce qui se fait de culturel en Amérique du Nord. Il y a vraiment des conglomérats médiatiques qui ont un pouvoir qui n'a jamais été vu dans l'information, dans l'humanité. Quelque chose qui me fait vraiment beaucoup peur. T'es-tu plus Marvel ou DC?
Ben, je vais prendre la question au sérieux aussi. Je m'y attendais pas. Je me la suis pas fait poser souvent.
Bon, genre, c'est vraies affaires, on se l'est dit.
Non, mais ce qui est dans mon livre, j'ai parlé de Superman.
Oui.
Par rapport à ce qu'écrit Marshall McLuhan sur les intellectuels et l'université. On va en parler tout à l'heure, oui.
Oui.
Et en fait, je ne connais que cette figure-là, plus deux autres, là, donc je ne pourrais pas vraiment trancher
le comic book.
Où je l'ai été enfant. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Superman, qui est une figure qu'on nous rappelle régulièrement sur les grands écrans.
C'est Jésus moderne, effectivement.
Et l'œuvre d'adolescent. Ouais. Donc, c'est pas seulement pour les adolescents, c'est par les adolescents que cette figure-là est apparue sur nos écrans. Et ce qui est intéressant d'une figure comme celle-là, c'est de se rappeler qu'au fond, le protagoniste dans Superman, c'est Clark Kent.
Officiel.
C'est ce que nous dit McLuhan. Et Clark Kent, en fait, c'est l'intellectuel contemporain. Mais par intellectuel, il ne faut pas juste imaginer un savant fou dans sa tour d'ivoire ou professeur tournesol.
Non, non, il y a d'autres valorifications que des affaires physiques. Ou des...
Mais un intellectuel, c'est ou même quelqu'un qui a une certaine compétence pour agir dans une administration. C'est, tout intellectuel, c'est quelqu'un qui travaille avec sa tête. Là. Disons-le comme ça.
Il y a, des
là.
Lunettes.
Bon, y a, par exemple, ou des... ou certains attributs comme une chemise à carreaux. Bon. Et donc, en fait, pour McLuhan, Clark Kent, c'est l'intellectuel type qui sent que la pensée est plus capable d'aborder le monde. Qu'avec la pensée, on n'est plus en phase avec le monde, on n'est plus capable, en quelque sorte, d'interagir avec lui, on se sent complexé. Et parce qu'on se sent complexé, on retourne en quelque sorte en fantasme de toute puissance, ce sentiment d'impuissance.
Ouais, ouais.
Et Superman, c'est juste un fantasme. Il est dans la tête de Clark Kent, mais il n'existe que là. C'est son fantasme.
C'est comme le gros bon sens de l'humanité qui se manifeste au travers de Clark Kent devenu Superman.
Ou l'espèce de fantasme voulant que sans l'intelligence, on règle les problèmes du monde, qu'il y a une justice immanente, qu'avec les biceps, on
As-tu
règle
dans
tout.
Commando, hey,
il va falloir qu'on parle de Superman,
toi
puis moi. Là.
Et en fait, que, et pendant ce temps-là, l'idée, c'est que l'intellectuel rêve de espèce de structure mégalomaniaque quoi, de, qui est Superman.
Waouh, sublime. moi, je veux te dire, mon mot préféré, ça a toujours été stratégie, pour plusieurs raisons. Ce mot-là, maintenant, il est un petit peu sale, mais bon. Avant aussi, mon mot que j'aimais le moins, c'était fashionista ou griffé, dans le sens de, tu sais, de la valeur ajoutée, là. et maintenant, il y a un mot qui s'impose plus que d'autres quand on va parler de gouvernance aussi, là, mais le mot quiproquo, ça l'a vraiment plus comme la même portée qu'avant. Là. Avant, c'était je te rends service, tu me rends service, mais maintenant, il y a des services à grande échelle. Et même, il y a plusieurs comme personnes qui. Comme la fille du chef de la Chine, j'ai oublié c'était quoi son titre, a diffusé son roman sous l'empire de Rupert Murdoch en disant... Puis là, ben après ça, Rupert Murdoch a pu avoir Fox News en Chine. Et donc, là, c'était comme un quiproquo. Ils n'ont rien signé, d'accord, comme rien. Mais ils ont, c'est un mot que je trouve qu'il y a une force présentement et je voudrais savoir ta portée là-dessus, en fait.
Moi, j'ai pas l'habitude de me prononcer sur ce sur quoi j'ai pas trop travaillé, mais bon, quiproquo, je l'entends, je suis plutôt habitué de tomber sur ce mot-là quand, pour désigner des malentendus ou des espèces d'espaces flous, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vraies affaires, puisqu'il en était question d'entrée de jeu, qui se passent dans des faux quiproquos, du genre le premier ministre qui va demander à son conseiller de ne pas lui dire ce qu'il en est de la caisse noire du parti pour qu'il puisse dire le jour où on en prendra connaissance qu'il ne le savait pas qu'elle existait. Bon, et c'est beaucoup ça, les quiproquos contemporains. Quoi.
Tu te couches le soir et tu gagnes un petit level en intelligence, c'est ça. J'ai bien fait d'y penser. Hein? Fait que là, dans le fond, on est en train d'élire des gens que moins ils sont au courant d'affaires et plus ils sont confortables dans leur rôle.
Mais aujourd'hui, c'est presque devenu...
À l'époque de la transparence.
Ouais.
Oui, la transparence, ça veut aussi dire, qu'il n'y a rien. Quoi, parce que quand quelque chose est transparent, on ne voit rien. Et c'est un peu la vision qu'a un ministre sur les choses aujourd'hui. D'ailleurs, par définition, un ministre ne sait pas, n'était pas là, n'a pas signé, n'a pas vu, n'a pas considéré. Et on se demande un petit peu ce que fait un ministre quand, à chaque fois qu'il y a une affaire qui est surgie, il nous dit qu'il ne savait pas. Quoi. Et souvent, on pourrait se dire que un ministre ou un chef d'entreprise ou le responsable d'une filiale d'une grande entreprise quelque part dans le monde, quand une affaire surgit, une vraie affaire, il sera toujours en mesure de, par un quiproquo, de dire ben, j'avais pas compris, mais on ne me l'avait pas dit. Puis c'est surtout ça l'usage du quiproquo.
Et voilà. Sinon, médiocratie, c'est beaucoup parce que j'ai vu la description du livre dans un article du Devoir et ça m'a tout de suite ramené à un petit peu pourquoi qu'on s'appelle 70%. Je t'en parlais un peu avant l'émission. Nous, on a la conviction que l'humanité avance à 70%, qu'il y en a, c'est sûr, qui font des avancées dans des domaines, mais que tout s'équivaut à 70%. Voilà, donc c'est pour ça qu'on donne un petit peu la parole à n'importe qui, de n'importe quelle manière. T'as vu Alexandre Meunier qui nous parlait de phallus, tantôt, on va dire le mot. Médiocratie... Gouvernance, c'est vraiment un ouvrage qui m'a semblé recherché à fond. Ça t'a pris comment de temps à en arriver à ça? Est-ce que c'est une conclusion qui existe dans ta tête depuis longtemps?
Ah, non, mais médiocratie, c'est un peu... un ras-le-bol. C'est-à-dire que bon, je suis chroniqueur, j'ai été chroniqueur et je le suis encore à la revue Liberté, mais dans d'autres médias aussi pendant quelques temps. Puis à force d'écrire sur un sujet ou un autre, le rôle des artistes à Lac-Mégantic, la façon dont l'Université de Montréal gère le fonds de retraite des professeurs, je veux dire la façon dont les professeurs abusent de leurs étudiantes sexuellement, comment on pense ce qui devrait être subventionné au titre de la recherche, comment les médias perçoivent leur auditoire. C'est-à-dire pour les médias, un auditoire, c'est un cerveau qu'on rend disponible aux publicitaires.
Non, c'est du temps d'attention, c'est sûr.
C'est ça. Et donc, quand on fait la somme d'un grand nombre de stratégies organisationnelles pour manipuler les gens, on se rend compte que l'intérêt pour les grandes organisations, que ce soit les multinationales, les différents ministères, les organisations parapubliques ou quasi-publiques comme les universités, c'est de rendre les gens médiocres. Ça, c'était comme une constante.
Et médiocre, si tu me permets, c'est pas inférieur, c'est moyen.
C'est ça.
Médiocre, ouais. C'est l'adjectif du moyen qui ouais. a trait à la normalité.
Oui, parce qu'en français...
C'est comme si le clou dépasse, il va se faire cogner. C'est ça.
Oui, on peut le voir comme ça, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est en français, hein, quand quelque chose est supérieur, on parle de la supériorité. Quand quelque chose est inférieur, on parle d'infériorité. Quand une chose est moyenne, on dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité.
Et voilà.
Puis il y a une injonction à être moyen. Moi, ça me gêne pas qu'on soit moyen. Moi, je fais l'omelette moyenne.
On l'est tous dans certains degrés ou à certains aspects.
Le problème, c'est pas qu'on soit moyen un jour ou l'autre dans quelque chose, quoi. On est tous un jour ou l'autre moyen dans quelque chose. C'est pas grave. Mais la moyenne, c'est une abstraction, c'est une sorte de portrait robot de différentes possibilités. Hein? Le problème avec la médiocratie, hein, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on enjoint les gens à incarner la moyenne, c'est-à-dire à n'être rien d'autre que l'incarnation de la prestation moyenne.
Ouais.
Et donc, je l'ai observé dans...
C'est comme la cloche, là. Il faut que tout le monde soit au sommet de la cloche.
C'est ça. Et dès que, si on ne sait pas faire fonctionner la photocopieuse, si on ne sait pas dire bonjour aux gens au bon moment, si on rechigne à remplir un formulaire, si on arrive en retard, on va se faire taper sur les doigts, mais éventuellement, on va se faire congédier. Bon. Donc, parce qu'on est inférieur à la moyenne. Bon. Mais si on a des passions, si on a des idées, si on a des convictions, si on a des envies, si on veut, par exemple, effectivement, sauver le cinéma de l'oubli, si on veut présenter... à la télévision publique, des films qui ne soient pas simplement des navets. Là, on va se faire taper sur les doigts aussi parce qu'on va dire, mais vous voulez trop en faire. Vous êtes trop exigeant, vous êtes trop engagé. Prenez...
Demandes trop à ton auditoire aussi. Qui, lui, est médiocre.
Ben oui, et c'est parce qu'il est formaté.
Par défaut, parce qu'il est formaté.
Et parce qu'on a ce regard-là aussi sur lui. Ouais. Et j'aimais ça, l'expression de tout à l'heure, faire parler n'importe qui, parce que la démocratie consiste à dire que n'importe qui a... un potentiel...
Fait partie de... Nous, on dit souvent que l'œuvre la moins conséquente est souvent d'autant plus conséquente. Ou quelque chose qui est divertissant, pas nécessairement de la manière que celui qui a voulu que ce soit divertissant, ça reste autant divertissant. Puis la nouveauté, c'est un argument très fallacieux pour en venir à trouver une qualité à quelque chose.
Et toujours par rapport à une moyenne qui est dictée par des gens de pouvoir qui nous disent, voilà, la moyenne, c'est ça.
Un intelligentsia de plus en plus restreint aussi, là. Je veux dire, il y a des faits qui le montrent. Le MPAA aux États-Unis, où la personne qui décide si un film est 18 ans et plus ou 17 ans et moins, c'est des êtres humains dans une petite boîte qui décident qui va avoir le droit d'écouter telle affaire. Ça existe maintenant. Ça.
Oui, d'une manière très, très standardisée. Et c'est pour ça que j'ai qualifié ce système-là, d'un point de vue politique, d'un système d'extrême-centre. Parce que, bon, le problème, souvent, quand on pense à l'extrémisme en politique, c'est qu'on associe l'extrémisme à la position du curseur sur l'axe gauche-droite, en disant qu'on est soit d'extrême-gauche quand le curseur est complètement à gauche, ou d'extrême-droite quand il est complètement à droite, alors que l'extrémisme n'a rien à voir avec ce positionnement du curseur, il a à voir avec le degré d'intolérance qu'on a par rapport à ce qui n'est pas soi. Et on peut être d'extrême centre parce qu'on peut être intolérant à tout ce qui n'est pas radio-canadien, jescaïsable.
Est-ce que la political correctness qui sévit généralement, là, est-ce que c'est une retombée de ça, de la médiocrité qui s'est comme installée partout?
Ben, un peu l'aide si elle se manifeste d'une manière tout à fait automatique, d'une manière un peu pavlovienne, comme ça, d'une manière bien pensante. Mais il faut voir que le politiquement correct, là, disons, c'est quand même Le fait d'initiatives fortes, il faut voir que c'est un mouvement qui vient des campus universitaires américains et on n'en a pas trop conscience dans le monde francophone, que ce soit au Québec ou en Europe, mais en Amérique, aux États-Unis en particulier, les universités ont deux grands publics, hein, deux grandes catégories d'étudiants et d'étudiantes. D'une part, des cerveaux, des gens qui sont doués pour les études, et d'autre part, des sportifs.
Les Dilton Doyle puis les Moose Mason.
Comme on... oui.
Bon. C'est d'archi. Oui.
Bon, d'accord, on dit que c'est ça. Comme tu dis. Donc, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les campus, on a attiré les étudiants sous des prétextes qui étaient quand même souvent orduriers. Du genre, venez dans telle université, il y a des cuites que vous pouvez faire le jeudi, vendredi, samedi, sans problème. Il y a des filles, amusez-vous.
Tu vois, à date, on étudie beaucoup là, ben, dans ta description.
C'est ça. Et puis, il y a les entraînements de football, puis il y a le basketball. Puis on fait rayonner l'université par les exploits sportifs de l'équipe. Mais déjà, c'est assez insultant pour les sportifs, parce que je ne pense pas qu'on a à s'adresser aux sportifs de cette façon-là. Mais on partait de la prémisse que les sportifs sont des imbéciles. Il faut s'adresser à eux comme des imbéciles pour les attirer à Duke ou au Texas, ou je ne sais trop où, pour qu'ils, s'ils sont performants sur le terrain, qu'ils soient dans cette université-là. Et dans les classes, ça crée beaucoup de problèmes, parce que là, on a eu des gens qui avaient des propos fascistes, misogynes, stupides, en plein cours, parce qu'ils n'étaient pas là pour étudier. Et là, donc, c'est là qu'on a eu des féministes puis des gens dans les études postcoloniales qui ont commencé à s'inquiéter de ce phénomène-là. Et c'était pas de la médiocrité. Là. Au contraire,
le sport professionnel a encore sauvé tout le monde.
Non, mais là, il est en train de nuire à pas mal de monde, en fait.
Ben oui, mais l'effet contraire. Ah, mais, on a poussé la réaction. Merci, sport professionnel.
On est fort comme ça. Et c'est devenu là, les professeurs d'université ont commencé à écrire sur ce phénomène-là. Et c'est devenu presque un... On pourrait dire une filière universitaire, quoi. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que la chose s'est un peu autonomisée et est devenue un peu moraliste, quoi.
La NCAA, présentement, en plus, c'est un foutoir incroyable. Là. C'est pas mal des esclaves, les étudiants universitaires qui font du sport. Là. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'argent. Fait que s'ils se fait payer un repas, puis en tout cas, ça marche pas. C'est un autre dossier. Il y en a qui sont mieux équipés pour nous autres pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain Deneau. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Comment? C'est vraiment, vraiment super de t'écouter. À partir de maintenant, les chroniqueurs vont défiler. On t'invite à commenter à la hauteur de tes envies. Merci beaucoup d'être avec nous. Vas-y, Nick!
Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin.
Journaliste. Grady Carson de la toujours divertissante Caroline du Sud est allé à la banque pour hypothéquer sa voiture afin d'obtenir un prêt. L'homme avait spécifié que la raison du prêt était une dépense imprévue. Lorsque questionné sur la nature de cette dépense par l'employé de la banque, l'homme a affirmé que le prêt était destiné à lui procurer des méthamphétamines. L'employé a alors faxé un appel à l'aide à un autre employé qui a appelé la police. L'homme a été arrêté. Les policiers ont trouvé sur lui un flacon de roche. L'homme a affirmé qu'il s'agissait de cocaïne, mais qu'il n'avait pas l'intention de la fumer parce que sa drogue, c'est la meth.
Tu vois, il y a quelqu'un qui est assis sur ses principes. Hein? Let's go, next.
Palmerston, le chat, a été déclaré le chef de la chasse aux souris du Bureau des affaires externes du Royaume-Uni récemment par le secrétaire Philip Hammond. Mais l'un des membres du parti de Hammond a soulevé une question cruciale. Est-ce que Palmerston le chat pourrait être un espion à la solde de l'Union européenne? En effet, en ce moment crucial, à la veille d'un référendum sur l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, se pourrait-il que Palmerston soit rempli de micros? Qu'il soit un agent en dormance? Le secrétaire Hammond a dû réfuter ses rumeurs officiellement, affirmant que Palmerston avait été totalement examiné avant de recevoir sa nomination. Pour ce qui est du fait qu'il soit en dormance, Hammond affirme qu'il est effectivement en dormance plusieurs fois par jour.
En dormant, c'est quoi? C'est genre, tu lui dis « Je ne vais jamais chez le barbier », puis là, il vire fou,
ouais,
puis là,
il devient russe. Ouais.
Pouache! OK, next!
Oui, bonne nouvelle, 70%! Vous êtes écœuré par votre propre altruisme? On a une nouvelle application pour vous. Venmo est l'application mobile alimentée par PayPal qui vous permet d'envoyer une facture à vos amis, colocs et collègues pour la bière que vous lui avez à faire ou pour l'ampoule que vous avez changée chez vous. Le fait que la demande d'argent n'est pas accompagnée d'une interaction physique rend le tout beaucoup plus facile, permettant à tout le monde de laisser son égoïsme parler. L'application fait fureur chez les 18-34 ans, leur permettant de trouver de plus en plus, plus que la vie c'est poche puis qu'on est tout seul dans le fond.
C'est beau ça là, ça existe pour vrai là, c'est une vraie application là.
Ben tout le monde la veut maintenant.
Ben oui. Là tu finis chez vous, fait que là tu peux lui monter le facture chacun.
Exactement, ben, là ouais. Tu leur envoies, leur téléphone ils buzz, ils font comme ah, je
c'était vraiment le fun ma soirée. Puis là ouais, ouais c'est ça, c'est le fun à quel degré. Bon, moi y en payer. Oh non, moi y en charger deux.
Venmo.
C'est ça, ouais, prenez des notes.
Oui. Et finalement, pour ce bloc, Kathleen Laroche de Fort Pierce, en Floride, faisait de la vitesse au volant de sa voiture quand elle a été arrêtée par des policiers. La femme s'est excusée d'avoir fait de la vitesse avant de révéler aux policiers qu'elle conduisait sans permis de conduire puisqu'il avait été révoqué. Les policiers ont alors remarqué que sa voiture était équipée d'une caméra de tableau de bord et ont demandé à la femme s'ils pouvaient examiner la vidéo, ce qu'elle a accepté. En examinant la vidéo, les policiers ont trouvé des images d'un échange de drogue entre Laroche et un homme qui a rapidement été identifié comme étant William Hills. Laroche a été arrêté pour excès de vitesse, conduite sans permis et possession de drogue. Hills a été arrêté pour trafic de drogue.
Ah, des héros. Merci, Bruno.
Avec plaisir.
Ah, de toute beauté. Tu vois, des beaux exemples que l'humanité avance à 70%, pas plus.
Moi, je trouve intéressant la brève sur la facturation entre amis.
Oui.
Ça montre qu'il n'y a plus de limite au libéralisme.
Ah, c'est sûr.
C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on est tous des lobbyistes de soi-même.
Exactement.
Et on est tous dans des logiques marchandes, ce qui est la logique de la gouvernance. Quoi. C'est l'idée de faire de chacun un commerçant de soi-même.
La justification que c'est plus facile quand on n'est pas en personne, c'est quelque chose qui en dit long sur, voyons, c'est tes amis. Tu sais, en tout cas, on emprunterait aux banques si on
c'était
a emprunté
pour une bière.
C'était mes
amis quand tu étais là.
C'est ça.
Mais à cette heure qu'ils sont partis, ben c'est là, du monde qui ont bu ma bière.
Merci, Venmo. C'est une calice. Hey, let's go, Nick, prochain.
Je suis full ému. J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est toi de pogner partout, c'est étonnant. Tu me dois une bière.
Salut Mathieu.
Salut.
Toi, c'est Venmo live, genre.
Mais non, mais d'autre, ça fait 4 ans qu'on parle de ça. Je l'ai jamais aussi bien expliqué que lui, il l'a dit en deux mots.
Ouais.
Je suis fier. Je suis content. Non, mais moi, ça fait longtemps que je me suis rendu compte de ça au primaire, la médiocratie. Ouais. Moi, j'ai passé tout mon primaire sans faire aucun cours de mathématiques. Mais j'ai passé mes années, j'ai passé. Aujourd'hui, là, ils ont fait des efforts, là, ils ont juste arrêté de pas nous faire passer. Là. Mais avant, c'était dur. J'avais comme 3 méthodes, je comptais sur mes doigts. J'étais un idiot. Fait que cette semaine, j'ai le goût d'être honnête, hein, parce que c'est le chaos. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, à TV, à radio, partout autour de toi, c'est le chaos. As-tu vu le regard des gens?
As-tu assez peur?
Non, mais je te pose la question parce que t'as l'air, tu sais, on est sur des terrasses, Tinder dans une main, carte de crédit dans l'autre.
Ouais, le monde le savent pas.
Hein? Non, ça suffit. Ça suffit. Tu as entendu parler de ça? Bayer qui voulait acheter Monsanto.
Ouais.
Ouais, là, tout de suite, j'ai eu comme un bug. Je me suis dit, c'est un peu comme si Claude Dubois essayait d'acheter Éric Lapointe.
La métaphore tient.
Ouais, j'étais allé vérifier leur chiffre d'affaires. Ça tient la route. Ça tient la route en esti. Mais imagine Dubois achète Lapointe et se le fusionne, tu sais. Tu fais juste le regarder, tu viens sous. C'est sûr. Sûr. Il a le pouvoir de faire des comebacks à l'infini. La SAQ fait des profits records. C'est la fin du monde, Tommy. Il faut pas que ça arrive. faut les tenir loin l'un de l'autre. C'est ça que je veux te dire. Prends tes responsabilités.
Non, je pense que c'était Bayers puis Monsanto. Là, c'était pas Dubois puis la pointe.
Bon, tout ça, Tommy, ça reste une métaphore. Hein?
C'est bon, c'est bon.
Non, mais heureusement, Bayers, eux autres, Bayers, la fin du monde, ils font ça depuis 1863. Hein? Ça fait quand même un bout qu'ils sont bons là-dedans. Puis Monsanto, mais ça fait depuis 1901 environ. Hein? Fait que, ouais, ouais, c'est comme ça. Fait que, ben, moi, une pharmaceutique avec de l'agroalimentaire, c'est comme un rêve devenu réalité, tu sais, dans la destruction. Hein? Tout le monde fait sa part. Et ça, moi, ça me rappelle, en tout cas, ça me rappelle beaucoup la première fois que j'ai acheté ma première usine, en fait, de verre en carton. Ouais, ben là, il me regarde. Ouais, bonjour. Non, c'est parce que moi, je suis dans la limonade.
Glimonex.
Glimonex.
Une entreprise à 20 milliards.
Ouais, une entreprise de 20 milliards au dernier trimestre, en hausse de 3,4. On espère. Non, mais c'est ça, c'est parce que moi, en 97... Glimonex. En 97, j'avais remarqué que le prix des verres de carton avait augmenté. Fait que je m'étais dit, hein, coupons l'intermédiaire, on va acheter l'usine. À long terme, ça va réduire les coûts, on va augmenter le coût du liquide. Et écoute, on va tripler les bénéfices. J'étais parti, tu sais. Hey, mais j'ai fait un nasty burn-out, man.
Oh non.
Hey, mais ça, ben trop de pression. À un moment donné, j'avais une entreprise de 2,4 milliards, 780 000 employés, 17 usines réparties dans 20 pays. Écoute, à la fin, là... À la fin, tu t'en doutais même pas que tu buvais ma limonade. Je faisais 3 piastres sur ton dos. Chaque décision pouvait faire d'un village un endroit prospère ou un désert enflammé. Écoute, j'en ai fait des autoroutes, moi, avec les Chinois, là.
Fait que de là, ta dépression, t'as une prise de conscience.
Ben oui. Écoute, à un moment donné, toi, tu te passes ça un après-midi avec ton fils sur le coin d'une rue, là. Le petit âne à limonade.
T'avais pas tout ça.
Ben, quelque part, l'activité père-fils, Tommy, j'en avais perdu le contrôle. Fait que laisse-moi te dire qu'il est allé dans sa chambre, c'est un esti de temps, pour réfléchir à un moyen de nous sortir dans la marde. Parce que non, mais à la fin, on était un peu dans la marde. On avait la mafia chinoise à nos trousses. Greenpeace nous accusait de trafic de nageoires de cachalots. En tout cas, j'ai soupé longtemps, souvent, avec ces gens-là. Et bon, là, aujourd'hui, j'ai tout arrêté ça. Aujourd'hui, je fais du yoga, je mange que des choses naturelles et je détiens encore 51% de l'entreprise. Hein? Comme ça, c'est beaucoup moins stressant et je n'ai que les avantages, Tommy. Et pourquoi j'ai gardé ça? C'est qu'en fait, oui, c'est le chaos, mais j'ai de l'espoir. Hein? J'ai de l'espoir... Même si les écoles tombent en ruine, j'ai de l'espoir, même si les populations s'endettent. Écoute, une vitesse là, incroyable. Je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 170% d'endettement canadien. Je ne sais pas si en quelque part là-dedans, moi, je comprends rien là, de ça. Comment tu penses que tu vas régler cette dette-là si tu travailles pour une pièce, mais que tu en empruntes 1,60? Comment tu vas régler ce problème-là mathématique? Moi, il m'apparaît un trou sans fond.
Ça doit être le but.
J'ai de l'espoir, Tommy. J'ai de l'espoir, même si les McDo 24 heures ont des pancartes esti hautes comme la tour du CN marquées 24 heures, mais qu'à 4 heures du matin, ils sont fermés. Pense-y.
C'est parce qu'ils changent la température des plaques.
Va chier. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu, c'est parce que la centrale ferme toutes les caisses pour faire la comptabilité. Je m'en calisse. Je veux un double cheese avec bacon. Ma tabarnak.
Il va être bon, celui-là.
Oh, hein? Mais gars, écoute, non, je le sais, ça a encore mal tourné. Oui, la police est venue. Non, j'ai pas eu mon cheese avec bacon. Et si j'ai fait ça, c'est pourquoi? C'est pour prouver mon point. C'est le chaos, Tommy.
Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Sacré Mathieu. Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que la médiocratie existe mieux dans le chaos ou l'ordre? C'est quelque part entre les deux.
Ben, en fait, un conseil qu'on pourrait donner à l'investisseur de Limonex...
Limonex!
Ce serait de ne pas acheter la compagnie de contenants en carton, mais d'acheter un contrat qui nous assure qu'on va se payer les contenants à un certain prix pendant 10 ans.
OK.
Et si jamais ce contrat-là, on ne l'aime plus, on le vend sur un marché, qui va être placé dans une grande boîte avec toutes sortes de contrats semblables qu'on va vendre à des spéculateurs qui vont, eux, confier la revente de ce contrat-là à des logiciels.
C'est le chaos. Tabarnak, c'est le chaos.
Il prend des notes, c'est bon.
C'est le chaos parce que, en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'à la bourse, on échange beaucoup des bouts de papier. On spécule même plus sur des actifs, sur des usines, sur des entreprises. Par exemple, les étudiants qui ont une dette universitaire, très souvent, ont contracté une dette auprès d'une institution financière qui a vendu leur dette dans des grandes boîtes dans lesquelles il y a plein de dettes semblables à la leur, sur les marchés financiers. Et là, il y a des investisseurs qui achètent des boîtes de dettes. Et de temps en temps, ils appellent pour essayer de recouvrir quelques dettes.
Ils achètent des boîtes de dettes étudiantes.
Et souvent,
on
sont
tellement des petits flocons de neige précieux.
C'est-à-dire que ce sont des ordinateurs qui vont spéculer en nanosecondes sur les dites boîtes. Là. C'est-à-dire qu'on va se les échanger à une vitesse telle que même l'esprit humain n'est pas capable de suivre.
C'est fou,
et
ça,
c'est le chaos, donc. C'est-à-dire que la finance n'est même plus comprise par ceux qui en profitent.
Par ceux qui font les outils non plus.
Ce sont effectivement des apprentis sorciers, des informaticiens, des informaticiennes.
J'ai lu à quelque part qu'ils voulaient détruire des montagnes des Appalaches pour ouvrir une ligne directe de New York à Chicago pour que les deux bourses puissent se parler sans envoyer le signal par le satellite comme ça.
Oui, c'est absolument crucial aujourd'hui d'être capable d'atteindre... d'avoir un axe le plus droit possible avec de la fibre optique, par exemple, entre deux bourses pour être plus vite en nanosecondes que le concurrent qui lui passe par-dessus. Quoi. Et c'est comme ça qu'on en vient à vendre et acheter plus vite les boîtes de dette scolaires.
Pendant ce temps-là, j'ai un acouphène puis personne ne fait rien pour moi.
Ben non, c'est pas important, c'est réel.
Hey, merci beaucoup.
Je sais pas s'il y a des spéculateurs qui veulent ton acouphène.
C'est ça, je peux mettre dans une boîte avec ma dette étudiante. D'ailleurs, moi, je vais finir de payer ma dette étudiante. Ça fait 10 ans. Ce mois-ci, fait que je vais pouvoir switcher mon opinion. Puis à ce temps, je suis contre l'éducation gratuite, calite. Non, c'est pas vrai. Hey, ça devrait être gratuit pour tout le monde, même les plantes. Si la plante a rempli sa demande pour aller à l'université puis qu'elle paye, let's go, vas-y à l'université. Même pas, elle n'a pas à payer. Il faut qu'elle s'ajoute ses cartons. Là. En tout cas, j'ai plus rapport depuis deux phrases.
Sur les ondes de radio H2O.
Le supermatozoïde.
C'est Mathieu Graton, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone qui nous appelle, qui prend le temps de jouer avec nous. Salut Mathieu, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien.
Je suis content d'être là avec vous autres, là. Ouais. C'est le fun, ça. Oui, c'est là. C'est drôle parce que pendant que je te parle,
c'est
ce qui est arrivé chez nous?
Non.
Il y a une corde de mon ukulélé qui a décidé de péter tout seul, là-même. Qui est au-dessus du foyer, ça a fait pâle. Elle vient de péter dans ma face pendant que je te parle, mais c'est pas plus grave. Je me demandais c'était quoi qui se passait.
Je sais pas si c'est une coïncidence. Moi, il y a un poil de nez qui est tombé sur mon bureau de travail. En tout cas, je sais pas. Là,
je pense que c'est le battement d'ailes d'un papillon. C'est comme ça qu'ils appellent ça, là, les effets. Ben, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Là. D'après moi, les gens là, qui écoutent, ils vivent quelque chose en ce moment.
Oui, je pense que oui. Hein.
Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h.
Radioh2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.
Plus haut que la nuit et le jour.
Salut Kevin.
Salut tout le monde, ça va bien?
Ah ouais, on a quelqu'un, oui, ça va très bien.
Moi aussi, j'ai mis mon corduroy. Check, go, check, go, check, check, go. C'est mon corduroy, moi j'aime ça.
Il est brun, ben oui, c'est vrai.
C'est super hot le corduroy.
C'est vraiment la température pour être en corduroy aussi.
C'est le fromage, le corduroy, moi j'aime ça.
Et on avance à la deuxième partie. Et
bon, là, on va faire un petit tour vite. Toi, j'assume que t'aimes ça le fromage.
Oui.
Toi, je le sais que t'aimes ça le fromage.
Je suis...
Parce que je devrais demander à notre invité.
Ben oui, certain.
Vous, monsieur Denoux, le fromage, êtes-vous d'accord?
Roquefort, j'aime bien.
Ah, il est d'accord! Hey! Lui, il a une tête qui me plaît bien.
peut-être
une tête fromagée. Bon, OK. Là, c'est le tour à demander à tout le monde. Vous autres, aimez-vous ça le fromage? Hey, c'est-tu du monde comme moi? Pareil comme moi.
Consensus.
Sauf toi, esti. Toi, t'as l'air d'un gars qui fait semblant d'aimer le fromage pour faire comme cool. T'as pas honte? Voyons, esti, c'est quoi le problème avec le fromage? T'aimes pas ça, le fromage? Hey, ma mère est pas grosse, arrête de parler de ma mère! Sti, hein? Ben, lui, il fait son smart. Hey, moi, j'aime ça le fromage. Mais il y a une face de gars qui aime pas le fromage. Voyons donc.
On avance à la okay. troisième partie.
Là, de quoi je viens vous parler, tu penses?
De fromage?
Ben, t'in. Tant qu'à avoir un intellectuel sur scène en ma personne, aussi bien en profiter.
Oui.
Bon, je rouvre le dossier économique du fromage. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça va mal en motadis aux États-Unis pour l'industrie du fromage. Les gros géants du fromage ont de la misère. Puis là, ça a l'air qu'ils vont détruire un milliard de tonnes de fromage, maudit Hérode.
Pourquoi?
Ben, parce que
fromage à Londres?
Parce que, check bien ça, je vais arriver là-dedans. Là.
Parce que tu vas revirer ta feuille de bord.
C'est ça. À cause d'un surplus, comprends-tu?
Ils ont fait trop de fromage.
Ils ont fait de la spéculation. Puis là, il y a un surplus, le plus haut surplus depuis 30 ans.
Fait que c'est quoi? C'est une bulle fromagère?
Ouais, c'est ça, c'est une bulle fromagère. Puis là, les géants, ils ont...
C'est des boîtes de fromage qui sont mélangées avec des dettes étudiantes dans des packages.
Ils ont spéculé à la hausse, les géants du fromage. Puis là, ben le fromage aussi, il y a le fromage européen. Hein? Bon, on parle des États-Unis, mais les Européens, le fromage est moins cher. Puis l'euro, il est à la baisse. Fait que qu'est-ce que ça fait? Le monde achète du fromage européen. Mais il n'y a pas juste ça, OK? Il y a aussi le surplus de lait présentement sur le marché, OK? Puis il y a aussi les seuses qui aiment ça, le fromage local, puis qui est éthique, hein, qui ne maltraite pas les vaches. Fait que ça fait une autre partie du monde qui ne mange pas le fromage des géants. On parle de Kraft, puis Black Diamond, puis les gros qui font du fromage, là.
Ouais.
Tu sais, le fromage, là. Bon, puis...
Attends, t'es en train de parler de quoi, déjà?
Je suis en train de parler de l'industrie du fromage.
OK, c'est bon, c'est correct. C'est juste pour être sûr que c'est pour ceux qui ne suivaient pas. Là.
Bon, puis là, ben c'est ça, il y a quand même un choix intéressant hein, chez les petits locaux. T'sais, eux autres, qui n'ont pas de misère, là, ça va super bien pour eux autres. Là. Puis il y a le fromage porcin aussi. Ça, là, je vous apprends peut-être une nouvelle, là, maudit Hérode, mais il y a du fromage porcin. Si vous en trouvez, dites-moi-le, hein, moi j'aime ça. Du fromage.
Allons donc!
Alors, c'est qui ça, à Londres? Pourquoi tu veux dire?
Ah ouais.
Moi, c'est voyons.
Il aime ça, le fromage.
Bon. fait que là... Merci, Bruno. Puis là, ben, il y a deux semaines, comprends-tu, maudit Hérode, il y a le... En parlant de médiocratie, hein, le site de nouvelles Upworthy, nouvelles, entre guillemets, qui, apparemment, si on se fie aux apparences, il se serait fait graisser à patte par l'industrie du fromage, les gros. Pour vendre leurs produits, pour dire au monde « Hey, garochez-vous des magasins et achetez notre fromage parce que sinon, on va le jeter dans les poubelles. » Voyons donc! Hein?
Allons donc. Là, hein?
Voyons donc, si! Donnez-le au monde qui sont pauvres, faites de quoi avec. Pourquoi acheter du fromage? C'est comme un genre de pression, une vente à pression, tu sais, genre, on met le gun dans la face et prend le fromage. Moi, je suis pas pour ça.
Non, moi non plus. J'étais le fromage, je suis pas bon.
Là, c'est ça, c'est Upworthy, hein? Upworthy, ils ont comme embarqué dans la game des Big Cheese.
Souillé vers le,
ben oui.
le Big Cheese.
Là, ben, esti, hein?
Le conglomérat.
C'est pour vendre, pour que ça soit favorable à eux autres. Hey, achetez notre fromage. Puis troisièmement, ma mère, là, a toujours dit... Hey, Pascal Bussière, elle a une face pour jouer l'air bête, hein? Puis... Par contre, Muammar Kadhafi, il était pas cool pantoute, ce gars-là. Même s'il vendait du fromage de chèvre.
Kevin, on l'applaudit. Let's go. Fan de fromage, finalement?
Moi, c'est crève-cœur en même temps, parce qu'on sait très bien qu'il y a des populations entières qui vivent de malnutrition. Pendant qu'effectivement, le capitalisme, dans sa folie... qui est strictement dans des logiques productivistes et comptables, a perdu de vue, en fait, nous a fait perdre de vue la fonction première de l'économie. En fait. L'économie, c'est comment mettre en relation des énergies, des talents, c'est en fonction d'aspirations, de besoins.
C'est supposé
comment...
être un outil de société et pas une finalité personnelle.
Oui, d'acteurs privés, effectivement. J'ai de la difficulté à rire. C'est pas ma faculté première.
Pas mal cool, man. Dis à Nick qu'on passe au prochain.
On passe au prochain.
Merci.
Bonsoir.
Allô? Me laissez un cheveu.
C'est un extra.
C'est un extra. Un cheveu, c'est la soupe. Hein? moi, j'étudie en travail social autochtone, puis quand t'es pas autochtone, la première chose qu'on t'apprend comme, comme façon de travailler, c'est l'esprit critique. Fait que je comprends ça, toute la déconstruction, puis puis les jeux de pouvoir. Mais moi, comme j'ai pas un diplôme, puis comme je suis une fille, on dit que je suis fatiguante quand j'en parle. Hey, non, faut pas dire ce mot-là. C'est comme c'est un mot mauvais. Aujourd'hui, je suis venue parler des choses que je déteste chez moi. Je sais que ça a l'air un petit peu rough, mais moi, j'ai eu une vie pas facile. Fait que depuis septembre, je suis en thérapie. C'est pas une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est vraiment une bonne chose que je suis en thérapie. Puis, il y a un moment où est-ce que tu arrives dans ta thérapie, où est-ce que tu fais comme un crash émotionnel, puis tu rentres dans une roue de pensée, comme une espèce de roue d'hamster, où est-ce qu'il y a une cassette qui joue tout le temps. Puis ça, c'est une cassette qui fait que tu vois plus bien autour de toi. Donc, pour ceux qui ont vécu mon air maussade, mon absence et mon silence, je suis désolée. Mais en même temps, ça se peut aussi que je taillisse. Fait que tu le prends comme tu veux. Puis non, c'est pas... On aurait aussi vérifié ma génétique, puis j'ai pas dans mes gènes le resting bitch face gene. Fait que c'est comme... C'était pas non plus prévu.
Le quoi, ça?
Le resting bitch face.
OK.
Ouais.
C'est comme avoir comme le grumpy
avoir
cat.
Avoir la bête naturelle, ouais, comme le grumpy cat.
Mais c'est juste 50% des filles qui l'ont sur Internet, apparemment.
Ça me semble très objectif.
Selon oui. Internet.
Selon Internet, oui.
Avec deux I majuscules.
Oui. Et puis, fait que là, ma thérapeute, pour me remonter le moral, elle a décidé de faire des différents exercices de découverte de soi, des exercices comme une chasse au trésor pour partir à la découverte des constructions de mon imaginaire.
C'est comme un roman de Paulo Coelho, ça.
Ouais, hein? Finalement, t'as peut-être la marche, là, mais la réponse était en dedans.
Oui, ouais, la réponse est toujours en dedans. Ouais. Fait que là, j'écris des poèmes. Un des poèmes que j'ai écrit, c'est « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. De toute façon, j'ai les fleurs, fuck toutes. » Fait que là, elle a fait une autre activité parce que je n'étais pas bien bonne dans celle-là. Elle m'a demandé de faire une liste des choses que j'aime chez moi. Puis moi, je suis vraiment très réfractaire à la thérapie qui me prend pour une imbécile. Puis je trouvais ça vraiment aussi plus drôle de faire une liste des choses que je déteste chez moi. Donc, j'ai fait une liste des choses que je déteste chez moi, mais j'ai eu un E et j'assume que c'est pour l'effort. Donc, chose que je déteste chez moi, je fais vraiment des trop longues introductions. J'arrive jamais au sujet amené. Il faut toujours que je fasse des longues parenthèses, que
comme
je tourne en rond.
Je
sais pas de quoi tu parles.
On a compris, là. Let's go, next.
Puis j'aime vraiment pas ça être sarcastique non plus. Genre, moi, quand les gens ils comprennent pas que j'ai juste le même ton tout le temps, j'aime vraiment pas ça être sarcastique. Je teste la façon dont je bois. Parce que quand je bois, j'ai toujours l'air surprise. Pis c'est comme, je sais pertinemment ce que je vois, ce que je bois, mais mes sourcils, they have a life of their own. Je prends une gorgée, puis c'est comme si mes sourcils disaient, « Quoi? Tu bois de l'eau, merde, c'est l'affaire que j'aime le plus! What? » Tu bois encore une gorgée. Damn, girl, tu me surprends à tous les jours. C'est ce que mes sourcils ont l'air de dire. Je déteste mon insécurité, puis non, c'est pas une affaire de fille. Parce que toutes les vidéos que j'ai été voir en ligne, c'est des gars qui les font.
Hey. Trois personnes qui l'ont pogné, ça.
Un exemple de mon insécurité, c'est disons que je dis à quelqu'un OK, fait qu'on se rend compte à quelle heure demain, puis là, la personne fait comme ah, j'ai deux, trois affaires à faire, je te tiens au courant. Moi, je vais répondre ah, OK. Mais en fait, je vais être comme quoi? Comment est-ce que je peux arriver 10 minutes à l'avance si je ne sais pas à quelle heure on est censé être là? Puis comment est-ce que je peux prévoir les 78 affaires qui pourraient tourner mal, qui pourraient expliquer que je suis en retard? Puis genre, qu'est-ce qui arrive si tu m'appelles, puis là, je suis dans la douche, puis là, je suis dans la douche, fait que là, comme tu penses que moi, j'ai planifié autre chose, parce que tu t'appelles juste une fois, puis là, j'ai planifié autre chose, puis là, genre, je m'en fous de toi, puis là, tu vas faire comme, mais moi aussi, je m'en fous de toi, fait que je vais planifier autre chose.
C'est mieux d'arrêter là, sinon...
Non, mais en fait, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est que je mets mon téléphone dans un Ziploc, puis je le mets dans la douche, comme ça, je vois, puis je peux comme sortir de la douche en panier.
Victoire.
Fait que c'est un peu comme ça, en énorme insécurité. Puis un autre exemple récent, c'est que la dernière fois qu'un gars a laissé une brosse à dents chez nous, j'étais comme, il dit, ah, est-ce que je peux laisser une brosse à dents? Je suis comme, Mais en fait, je suis genre, quoi? Puis c'est quoi la prochaine chose que tu vas faire? Tu vas refaire ma garde-robe au complet? Parce que les gars, ils font ça.
Oui.
Une autre affaire que j'haïs, c'est mes genoux. Mais je pense qu'en fait, j'haïs les genoux de tout le monde. Puis récemment, j'ai vu dans une revue à potins américaine qui avait pris comme des photos des genoux des stars. Puis il avait mis comme des photos, des images dessus. Genre, il faisait comme de la lecture des genoux. Là, je me suis dit que je peux faire la même chose. Fait que j'ai lu dans les plis de mes genoux. Puis, je les ai pris en fait aussi, je pense que c'est un peu n'importe quoi, ces articles-là. Parce que moi, j'ai pris en photo mes genoux. Là, il a fallu que je retourne à la photo. Il a fallu que juste avec la profondeur puis avec les ombres. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils ont pu faire pour voir la face de Donald Trump dans des genoux d'une actrice quelconque? Il y a quand même un coup là-dedans. Et là, je vais juste m'asseoir sur ton genou parce que là, je fais ma lecture de genoux. Fait que là, je regardais mes genoux. Puis là, dans ce genou-là, j'ai vu un singe. C'est une indication de scandale et de mauvaise rumeur.
Attends, là, t'as un lexique, là, des images pour lire les genoux. T'as comme un lexique, là, de
oui,
ce
oui,
que tu
oui.
vois dedans. Okay.
Définitivement. Puis là, fait que j'ai vu comme. Oh, oui, fait que j'ai vu, c'est ça, j'ai vu un singe, puis j'ai vu un cochon qui dit que je vais avoir du succès en agriculture, donc dans mon potager et mon jardin. Puis, dans mon genou, je voyais comme un fœtus, mais il n'y a pas ça dans la lecture. Fait que j'ai vu, sinon, un caterpillar qui, j'imagine, c'est une chenille. Puis ça, c'est encore une fois qu'il va avoir des mauvaises rumeurs à mon sujet. Fait que j'aimerais ça, comme que les gens arrêtent de parler dans mon dos, parce que, comme, mes genoux le disent vraiment beaucoup, que les gens parlent dans mon dos. Puis, mais je me suis dit aussi que j'aurais me spécialiser dans la lecture des genoux parce que, tu sais, quand tu les mets comme ça, tu fais vraiment comme plein de plis. Puis je trouve aussi que c'est vraiment une bonne façon de rentrer en relation avec les gens puis d'initier des contacts intimes. Puis, puis de se pogner plein de monde dans le fond.
Let's go, là!
Je déteste ma job, mais je sais que ma job, c'est pas moi. Mais comme je passe la moitié de ma vie là, ça définit quand même pas mal ma semaine puis mon quotidien. Puis c'est vraiment pas que mes collègues sont méchants parce que j'ai vraiment compris que je fais partie de la gang depuis qu'ils me disent que je travaille tout croche, que je suis dans le chemin puis que je suis un petit peu conne. Fait que tu sais, c'est comme ça quand tu travailles avec des gars que tu sais que t'es vraiment dans la gang. Puis j'ai aussi deux collègues qui parlent tout le temps de hockey puis qui font tout le temps du name-dropping de joueurs que je connais pas. Mais tu sais, c'est pas juste la NHL, c'est aussi comme toutes les autres ligues de hockey qui parlent tout le temps. Moi, quand
ils font peur, tes collègues.
Moi, quand ils parlent de hockey puis qu'ils parlent de nom, c'est comme deux enfants qui essayent de parler en anglais. C'est comme ça que ça sonne. C'est comme « Really schnall, really schlur, I'll need a schnee to bowl a boiler. » C'est comme ça que ça sonne toutes mes soirées. Puis l'autre jour, j'ai un collègue qui m'a dit « Hey Audrey, on parle pas en travaillant. » Puis tu sais, quand tu manges puis genre que t'aimes vraiment ça, ben tu parles pas. Fait que si on parle pas pendant qu'on travaille, ça doit être vraiment cool ce qu'on fait, puis on aime vraiment ça. Puis j'ai regardé, puis j'ai répondu, non, Aymeric, la raison pourquoi je parle pas, c'est que depuis que je travaille ici, je souffre d'ennuis chroniques. Et à chaque jour, ma personnalité s'efface de plus en plus. Et être pris dans un tourbillon du vide existentiel qui est créé par le secteur public. Et un jour, ma personnalité sera remplacée par celle d'un travailleur de l'État assidu mais sans voix qui se laisse manger la laine sur le dos par les pattes grasses d'un gouvernement sale qui a mieux gratté le dos des banques, des riches et des investisseurs étrangers. C'est pour ça que je parle pas, Aymeric.
C'est appréciatif. Fait qu'il est allé jouer avec ses Transformers.
Là, il a répondu « Fif!
» Ça méritait un gros, là.
Ouais, il m'a poussé, genre, puis il est parti. Puis, finalement, je déteste la façon que je suis pas capable de laisser une idée aller là, parce que moi, je suis une personne passionnée, fait que dès qu'il y a une idée qui m'arrive en tête, il faut que je la pousse jusqu'au bout. Puis moi, je travaille aux archives dans un hôpital. Et puis, il y a un formulaire gouvernemental qui est rempli qui s'appelle l'examen objectif du nouveau-né. Et je suis en train de monter une pétition que je présentais à l'Assemblée nationale pour qu'on aille l'examen subjectif du nouveau-né. Je me propose aussi de le tester et d'en devenir la spécialiste. Ça ressemblerait à ça. Ah oh, ouais, votre bébé, il est vraiment laid. Mm-hmm. Avec une face de même, attendez-vous pas qu'il fasse grand-chose d'extraordinaire. Je l'enlignerais déjà vers un job de bureau ou de bibliothécaire. Tout ça pour pas que sa grosse face lettre reste loin du public. On voudrait pas davantage polluer le paysage médiatique. Pour ça, on a déjà Jean-Luc Mongrain, Gaétan Barrette et Guy Nantel qui ont peinturé notre quotidien visuel de laideur.
C'est apprécié, coming out. Ça a l'air le fun de ton projet. Penses-tu que ça va passer?
Ben, y a à peu près n'importe quoi hein, qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale, surtout quand on regarde pas, puis surtout quand c'est les séries. Ce qui est une bonne chose que les Canadiens peuvent faire vraiment les séries cette année parce que là, on se rend un peu plus compte.
On peut vivre la Trudeau-manie, hein? Hein? On a du fun, hein?
Fait que c'est ça. Mais en fait, en faisant la liste des choses que je déteste, je pense que je me rends compte aussi que j'aime pas mal les choses que je déteste chez moi. Fait que c'est tout.
Ah ben, merci beaucoup, Audrey. Bonne affaire. Ah, la Trudeau-manie, ça lève pas de passion pour toi?
Ben, j'étais en France il y a quelques temps, puis on m'a demandé de commenter l'avènement de mon pouvoir de Justin Trudeau. Puis je savais vraiment pas quoi dire. Alors, parfois spontanément comme ça, j'ai dit que si la nature a horreur du vide, Justin Trudeau n'est pas naturel. Mais c'est venu dans le flot. Non, mais en fait, on analyse plus sérieusement les
politiques. C'est plus un mot d'esprit qu'une réelle analyse.
Mais est-ce qu'on peut en faire tellement d'autres, quoi?
Ah, en même temps, il vient de commencer.
Quand on analyse les différents gouvernements du Canada, on voit que sur les choses fondamentales, les politiques sont essentiellement les mêmes. Elles sont pensées à Bay Street par les grandes banques, les grands investisseurs. Le Canada, c'est une colonie, c'est pas une démocratie. Quand on dit une monarchie constitutionnelle, c'est un euphémisme pour dire une colonie. On n'est même pas une république encore. On parle beaucoup de l'indépendance du Québec, mais le Canada n'a même pas fait son indépendance vraiment. C'est encore un pays rattaché à la couronne britannique et un pays qui a une approche coloniale sur son territoire. On le voit en Alberta avec les sables bitumineux, Québec avec les mines.
Même les redevances minières, là. On est comme on est le paradis fiscal des minières sur la planète.
Et donc, en fait, la différence entre les conservateurs et les libéraux, c'est que les libéraux appliquent les politiques des conservateurs avec un sourire.
Puis la coupe de cheveux de Justin est bien meilleure.
Oui, c'est ça. On fait des meilleures images, on est moins sérieux. Donc, on passe d'une image à une autre. Bien sûr que quant à certaines politiques, il y a des différences. On nous a rétabli le recensement. On va sans doute avoir des subventions des organisations un peu plus larges.
Fumer de la dope.
Bon, il va y avoir effectivement, sur le plan moral, il y a des différences. Sur le plan des comportements, il y avait des libertés sur l'enjeu
personnel.
Des heures. Là, ouais. Du point de vue des enjeux fondamentaux, il n'y a pas de différence.
Parce que là, veux pas, on élit des députés et des ministres et le premier ministre et tout. Mais en même temps, il y a les hauts fonctionnaires qui ne changent pas en arrière eux autres.
Non, mais le Parti libéral, de toute façon, a toujours été le parti de l'establishment financier. Je veux dire, c'est un parti... gouvernemental.
Hein, tu mettrais-tu le t-shirt « Je, petit cœur, establishment financier »
Bon, je vais me maintenir ma chemise bleue.
De la collection de nous, là.
Pas encore.
Okay. On passe au prochain, hein. Let's go, Nick. Ça, c'est Damien, ça. C'est Damien. C'est Damien, il est là. Damien, il est pas là. On n'a pas Damien. Let's go, des nouvelles, Bruno.
Il n'est pas là, fait que je me suis essayé, hein, au cas où qu'il se cachait.
Ben oui, mais je comprends faire sortir le Damien fois. Avec son thème.
C'est ça.
Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin.
Un homme en Russie était dans un supermarché quand il est arrivé au bout d'une allée ornée d'un miroir, donnant l'impression que l'allée continuait. L'homme s'est alors retrouvé face à lui-même, littéralement et virtuellement, deux mots qui veulent maintenant dire la même chose, mais je m'égare. Sa réflexion ne voulant pas le laisser passer, il a commencé à l'engueuler. Un témoin de la scène a filmé le tout et est allé avertir l'homme de son erreur avant qu'il n'en vienne au coup. La Russie aurait joué un rôle, je veux dire, l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident.
Je l'ai vu le clip, c'est vraiment très divertissant. Le gars, il est en crise après sa réflexion dans le miroir qu'il veut pas le laisser passer.
Comme un oiseau. Assis paisiblement au deuxième étage d'un café de Manchester au Royaume-Uni, les clients ne s'attendaient pas à une attaque terroriste. C'est pourtant ce qui est arrivé, ou en tout cas ce qu'ils ont cru qui est arrivé. Alors que des enfants au premier étage se sont mis à crier et à frapper sur leur plateau de bouffe sur les tables. Croyant qu'il s'agissait de coups de feu, les clients paniqués se sont dirigés vers le balcon pour s'évader, mais la porte était fermée. Un client s'est alors dirigé vers la fenêtre avant pour se laisser tomber en bas, se brisant le bras. C'est ça la fin de la nouvelle. Parce qu'il avait peur des terroristes.
Ouais, ouais. Il y avait combien des terroristes, si tu me permets?
Il y en avait zéro.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et finalement, dans un tout autre ordre d'idées, Paul Salaud, est un homme qui cherche la vérité. Il travaille en ce moment à faire une expérience qui permettra de démontrer hors de tout doute, si les attaques du 11 septembre 2001 étaient un coup monté ou si elles se sont vraiment passées, comme la version officielle le dit. Pour ce faire, l'homme devra accumuler 1,5 million de dollars afin d'acheter un Boeing 747 ou un avion équivalent qui est sur le point d'être mis hors service et un building qui est sur le point d'être démoli. Il compte ensuite poser des caméras dans tout le building pour s'assurer que personne n'altère les lieux et va ensuite pitcher un avion à 800 km/h dans le building. L'homme affirme être présentement en pourparlers avec l'armée thaïlandaise pour acheter un avion et un building dans la campagne afin de ne pas blesser personne. Sa campagne Indiegogo a été retirée parce qu'elle ne se pliait pas aux consignes de l'entreprise de sauve-tout financement qui stipule que si la campagne prétend pouvoir faire l'impossible, ne la publiez pas.
Ben, ça te donnerait rien en tabarnak aussi. Tu prouves rien.
Non, tu prouves tout.
Tout, c'est ça. Ouais. Pour 1,5 million.
Tu revois la vidéo, il explique ça avec un tellement beau sourire en plus.
Finalement, toi, es-tu conspiracy théoriste? Le building numéro 7, il a brûlé aussi. C'est-tu la CIA qui s'est arrangée pour faire le 9-11 avec Ben Laden puis le Yeti, genre?
Mais ce qui est intéressant à l'université, c'est de voir en tous les cas à quel point il y a des questionnements qui sont proscrits. C'est-à-dire que quand on commence une recherche universitaire, il faut commencer par citer tous ceux qui ont parlé de la chose lorsqu'ils sont autorisés par l'institution. Et il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas soulever. Moi, ce qui m'agace, c'est quand on a décidé de la réponse et on cherche à faire rentrer toutes sortes de preuves dans une sorte de réponse qu'on a finalement élu et décidé d'avance.
Ben, comme dans l'exemple, là, le gars, il y a blanc ou noir, là, c'est arrangé ou c'est pas arrangé.
Mais le problème, c'est de dire qu'il y a des complots partout, qu'on a en quelque sorte une lecture sûre de ce qui est censé être arrivé dans tel contexte. Et l'autre problème, c'est de dire qu'il n'y en a jamais. Et qu'il n'y a personne qui complote et que tout se passe comme on nous le raconte dans les médias grand public.
Ça, c'est une autre éventualité weird. Hein? Moi, je pense que c'est un complot qui est mené par le cash. Le cash, il est fort. Hein? Il sème le cash. Puis dès qu'il est là, il veut être plus.
Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux d'intérêt qui ne supposent pas qu'on complote. Il suffit de comprendre un petit peu où sont les intérêts pour qu'on agisse dans une convergence sans qu'on ait vraiment à ourdir quoi que ce soit dans des officines. Vendre
fromage! Comme vendre le fromage, effectivement. Exactement. Ben, merci beaucoup, Alain Deneau. C'était
merci.
Vraiment un plaisir. Moi, je vous encourage vraiment à mettre une quinzaine de piastres sur la médiocratie. C'est un livre très bien écrit qui, en fait, ça m'a donné plein de manières d'expliquer en des nouveaux mots pourquoi mon show s'appelait 70%. Comment l'humanité réellement est en train de glorifier cette idée-là que la stagnation, comme je dis souvent pour les films, à cette heure, ils font plus des films pour plaire, ils font des films pour ne pas déplaire. Et là, c'est vraiment un changement de paradigme. Ils sont en train d'impliquer des codes de valeurs qu'on comprend pas encore dans leur manière de construire des films. Et aussi les campagnes de pub qu'il y a à travers ça, le culte des stars qui est incroyable. On vit vraiment une époque spéciale en culture et je suis très content de la vivre, de la partager avec vous, c'est sûr. Puis de l'avoir faite avec toi ce soir.
Ben, merci. J'imagine que le sous-titre de l'émission, ça pourrait être « Ça va faire ».
Ouais, peut-être.
Merci.
Puis sinon, ben, à partir de là, on va écouter un film que tu nous as suggéré. J'aimerais que tu nous en parles un petit instant avant qu'on se lance dans l'écoute de ça. Ça dure une 22 minutes à peu près.
Oui, en fait, c'est un film d'Alexandre Gingras auquel j'ai participé. Et c'est une adaptation d'un chapitre d'un livre que j'ai déjà fait sur la question des paradis fiscaux. Et en fait, l'idée du film, c'est de montrer qu'on est déjà tous informés intuitivement de la question des paradis fiscaux. Très souvent, on a l'impression, quand on parle des paradis fiscaux de pays comme les Bahamas, les Caïmans, le Luxembourg, en tant qu'ils déstructurent complètement nos régimes politiques, on a l'impression qu'on n'y comprend rien. On a l'impression que c'est une affaire d'experts. On a l'impression que ça nous échappe. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces références-là sont déjà dans les films d'Hollywood. Si on les isole, si on isole les passages correspondants, on a finalement déjà un cours qui nous est donné par les films d'Hollywood assez fin sur les enjeux relatifs aux paradis fiscaux, parce que quand, par souci de vraisemblance à Hollywood, on veut nous montrer un politicien corrompu, on ne nous le montrera pas avec une valise de billets en allant à la caisse populaire du coin. On va nous le montrer maîtriser des codes, des comptes à numéro en Suisse ou aux îles Vierges britanniques. Quand on veut nous montrer un trafiquant d'armes, un trafiquant d'ailleurs, de drogue, quelqu'un qui fait de la contrebande, quelqu'un qui est dans la filière de la prostitution, on va toujours nous les montrer en ayant accès aux paradis fiscaux. Quand on veut nous montrer des fraudeurs du fisc, tout simplement, on va nous les montrer ayant recours aux paradis fiscaux, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut être vraisemblable.
D'ailleurs, ça se fait dans quel autre compte en banque, dans quel autre pays qu'un compte secret en Suisse, une rançon de jeune fille kidnappée?
Ben, par exemple, c'est ça. Effectivement, on ne fera pas la chose avec un chéquier d'une institution bancaire du coin.
Merci beaucoup, Alain Denon, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 70%. Dans quelques instants, on va être rejoint par notre DJ de la soirée, Maxime Gervais. En attendant, ben, on va baisser l'écran. Moi, je vais aller prendre une photo de Luther avec toi, Alain. Ça va être débile. Ma mère, elle va être tellement fière.
Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario-Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis.
Alexandre Meunier, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on l'applaudit.
Salut les gens, ça va? Ouais! Je suis le seul qui sait plus ou moins comment interpréter le chandail à Tommy en ce moment. Ouais. Je sais pas, sans le chapeau, je t'aurais trusté, mais avec...
Avant, j'avais de la barbe,
c'était
plus...
Je te crois, je te crois. Ah, il est malade. Il est malade. Je peux te toucher? Et voilà, on a vécu un rêve douteux. J'ai touché une épaule à Tommy, subtilement. Je suis content parce qu'on me dit souvent que j'ai de l'air d'avoir 17 ans. Je suis quand même d'accord, mais c'est quand même dur à prendre. Je suis juste comme... OK, j'ai peut-être de l'air du gars qui est capable de sortir de l'alcool en secondaire 5. Juste une fois sur deux. Sauf chez Couche-Tard. Mais je suis capable de m'en servir à mon avantage. Je suis quand même assez baveux dans la vie en général. Puis quand je le sens que le gars va devenir agressif, je fais juste dire « Est-ce que tu vas vraiment frapper un mineur? » Je suis content dans ces situations-là, mais ça fait mal quand t'as 22 ans puis que ça marche. Sinon, Dora l'exploratrice est un modèle pour beaucoup d'enfants. Puis moi, honnêtement, ça me fascine. Je suis juste comme à le 8 ans. C'est pas de l'exploration qu'elle fait, ça s'appelle une fugue. Non, moi, sérieux, je pense que j'aime juste pas le concept en général de Dora. La version, c'est version originale, c'est elle qui parle un mélange d'anglais et d'espagnol. Elle fait juste dire des choses super simples, genre compter jusqu'à 4 puis nommer des endroits. Bon, ouais, c'est qui a volé l'idée à qui? Dora ou Pitbull? Ah non, Pitbull, Pitbull, c'est un chanteur qui se la joue gangster, mais on dirait qu'il fait juste des chansons pour enfants éducatives. Il a juste changé les fins de phrases pour des trucs sexuels. Mais son premier hit à lui, ça a vraiment été « One, two, three, four, tu sais que je te veux. Unos, dos, tres, cuatro, tu sais que tu me veux. » Puis je suis comme « Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. T'es même pas exotique, t'es chauffe. » Dans le top, on dirait une espèce d'Enrique Iglesias après 2 ans de chimio. Moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'il parle même pas espagnol pour vrai, puis qu'il a juste choisi cette langue-là vu que ça pogne avec les filles. Je suis désolé, mais il y en a pas de chanteur international, sensuel, qui a une carrière en chantant en allemand. Hans, Svens, Sdrer, Vier, Berlin! Je dirais une marche militaire. J'entends ça à la radio, je suis comme... La Pologne est attaquée! Moi, j'ai comme deux préjugés majeurs envers les Allemands dans la vie. Premièrement, que tout ce qu'ils disent sonne beaucoup trop agressif, mais surtout que tous les enfants qui s'appellent Ansel sont des petits garçons dodus qui portent des shirts vertes trop serrés avec des mocassins en bois puis qui rêvent de devenir boulangers. Je le sais que c'est des préjugés, mais on dirait que c'est grave, mais je le sais que leurs premiers mots ont tous été « Papa, je veux plus de pain! » M'excuse, c'était un petit peu trop poussé, je suis désolé. Je crois vraiment que tout le monde dans la vie devrait faire ce qu'il aime. Je trouve que c'est quelque chose d'important, à l'exception peut-être des chasseurs de tornades. Je suis pas le seul qui est mal à l'aise avec le fait que quelqu'un me dise ouvertement que son seul but dans la vie, c'est de neutraliser des courants d'air.
Attends, ce serait pas long. Non, c'est moi, je parle pas des scientifiques qui trouvent des informations importantes. Moi, c'est vraiment ceux amateurs qui font juste pourchasser le vent pour le filmer de plus proche. C'est souvent des gens seuls. Je dis ça parce que visiblement, ils ont personne qui les aime assez pour leur dire que ça existe, un zoom! Comment? C'est plus simple, c'est plus simple. Puis, je sais pas, moi, c'est le mot chasseur qui me gosse un peu là-dedans. C'est pas du gibier, c'est un des quatre éléments. Je veux dire, tu ne le chasses pas, tu roules dans la même direction puis à la même vitesse, nuance. Moi, j'ai un peu l'impression que le chasseur de tornades, c'est un petit peu le cousin débile du chasseur de fantômes. Non, les deux chassent quelque chose d'invisible, sauf que au moins, si le chasseur de fantômes trouve quelque chose, ça va être une grande découverte. L'autre, c'est quoi le maximum qu'il va faire? Il va refermer un pot vide proche d'une tornade, crier « Je l'ai! » Pour après ça la montrer à tout le monde. « Toi, t'es ma tornade! » Ben oui, Mathias, hein? C'est intéressant. Est-ce que t'as vraiment fait des trous pour qu'elle respire? Il est parti à la tournade. Sinon, je pense pas que je suis une mauvaise personne en général. Je crois juste que j'aime rire. Si un jour, j'avais la chance d'utiliser une machine à voyager dans le temps, la seule et unique chose que je ferais, j'irais au début de l'humanité, à l'époque d'Adam et Ève, puis je ferais juste leur dire « Ouais, ben c'est ça, le fruit dans l'arbre, ça s'appelle un pénis. » Pis ce que tentent les gens madans, c'est une pomme. Pis c'est tout. Moi, je reviendrai à notre époque, pis je ferais juste profiter d'entendre des petites choses du genre « Ah, tu sais, un pénis par jour éloigne du médecin pour toujours, hein? Hey, Sylvain, pour la troisième fois cette semaine, veux-tu bien rincer les pénis avant de les donner aux enfants, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas vrai que nos jeunes vont commencer à manger des pénis sales, hein? » Ah, moi, honnêtement, l'automne passerait de la saison que j'aime le moins à ma préférée. J'ai déjà hâte d'aller sur Facebook voir plein de photos cute de couples au pénis avec des espèces de commentaires déplacés genre « Wow, vraiment un beau couple! » En passant, est-ce que ton père va faire sa fameuse croustade au pénis tante Daniel XXX? Hey, merci, je vous laisse là-dessus.
H2O.
Your Jedi mind tricks do not work on me.
Ensemble, nous sommes la force.
Funny money. No pots, no money, no deal.
Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side.
Nous sommes rendus au moment de... Là, plus fort que ça. Là. On est rendu au moment de... L'encan, oui, c'est ça. On est un organisme à but non lucratif et on est pauvre. Alors, on va commencer par remercier la moitié des Picbois qui nous a servi de VJ ce soir. Dom, merci, mesdames, messieurs. Dom. Ah non, c'est l'autre qui fait toute la job d'habitude, c'est Max. Salut Max. Mavana White. Mon bodyguard, faites attention, il est chauve comme Bruce Willis. Il va vous yépicailler. Hey John Statham. Hey, partez pas tout de suite, on a besoin de vos sous. OK. On commence avec le premier lot. Un lot de, pas des DVD, pas des VHS, des Blu-ray, mesdames et messieurs. Des Blu-ray, on est rendu au Blu-ray. Full Metal Jacket. Son mine jamais sorti de la boîte, encore emballé. Dark Knight. Rush Hour. Patrick Groux. Ça 5. Entourage de film. Inherent Vice et Attack of the Giant Leeches, The Wasp Woman, Killer Creature, qui m'en offre 2 piastres?
2 piastres
là-bas! C'est toutes des Blu-ray. Qui m'en offre plus? Allez, s'il vous plaît. Non, c'est moi, je fonctionne à la piastre, fait que c'est rendu à... Merci! 3 $ à un homme intelligent qui a compris. 5 $! 5 $ une fois. 5 $ deux fois. 6 $ au monsieur Barbu en première rangée. On applaudit le courage. Oui, oui, oui. C'est jamais ouvert. Non, OK, bon. Alors, 6 piastres une fois. 6 piastres deux fois. 7 $! Qui a dit 7 piastres? Oh! 7
une fois.
7 une fois. 7 deux fois. 7 vendus, mesdames et messieurs! Donne ça à Bruno. Maintenant, oh! Avec ça, vous allez vous mettre riche. Un authentique set de poker avec des jetons puis un jeu de cartes. Quand même cool, ouais.
Est-ce que toutes les cartes sont là?
Le jeu a déjà été joué, il n'est pas mint, mais c'est un full 54 avec les deux jokers, puis la carte de non, elle n'est pas là. Oui, oui, c'est un vrai jeu de poker. Alors, qui m'en offre 2 piastres? Allez, s'il vous plaît. 5 $! 5 $ pour un magnifique jeu de poker. Ça peut être un jeu de trou de cul aussi, là. Vous mettrez jetons où vous voulez.
Ce que tu veux.
C'est un jeu de cartes. 6 $! On a 6 $ dans le fond une fois. 6 $ deux fois. 6 $ vendus. Félicitations. Merci beaucoup, Guy. Où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit à... Oh, ça, c'est mint aussi. Des fridge magnets de Mario Bros.
C'est. Je sais pas pourquoi vous l'avez choisi parce que j'ai pas de change puis tout le monde a des vins. Hein?
Ben. Merci de casser mon élan, Bruno. J'apprécie. Alors, on a ces magnifiques fridge magnets. N'oubliez pas son mint. Une fois 1 $, qui m'en offre 1 $? 1 $ à la mademoiselle. 2 $. 3 $ à la mademoiselle. 4 $. 5 $. 6 $. 7 $. 7 $. Oh! Hey, montre-nous tes couilles, man. Montre-nous tes couilles. 7 $ une fois. 2 fois. 7 $ vendus. Bravo. Une belle main d'applaudissement. C'est à lui, c'est à Bruno qui fait ta
danse. Non, tu viens pas me voir, tu vas aller voir eux autres parce que moi je t'avais mis dans le change au monde et que j'ai pas de chance. Bruno! Bruno!
Bruno! Bruno! Bruno! Ok. Maintenant, non, non, mais. C'est un t-shirt douteux.org. C'est le dernier extra large. C'est le dernier t-shirt douteux.org extra large.
Yes.
Moi, j'en donne 10 piastres.
Moi, j'en donne
12. 15. 16. 20 $. Gaël, 20. Une main de 21. 21. 25 $ à Ben 95. 26. 26 $. Hey, 26 une fois. Ça fait 27 parce que je. OK, 27 une fois. 27 deux fois. Tu dis 27 vendus. 28 $. In extremis par la peau des dents. Par la peau des dents. 28 $ une fois. 28 $ deux fois. 28 $. Combien? 28 $ vendu. Bravo, bravo. Bravo. Et maintenant. Et maintenant, le clou de la soirée, l'artiste qui a fait mon T-shirt. Non, c'est vrai, c'est Caroline Veilleux qui a fait mon T-shirt, mais c'est pas mon T-shirt que je vends. C'est ce magnifique skateboard que Caroline a peint pendant l'épisode de 70%. Il y a des roues, il y a un board, ça roule. Ça commence à 5 $. C'est un longboard qu'on me dit dans l'oreillette en bois. 5 $ une fois. 6. 7. 10. Oh, un 10 $ en haut. Oh, 10 $. 12 $. 13. 15. J'ai entendu 20. 20 dans le fond là-bas. Une main d'applaudissement pour le 20 $ dans le fond là-bas. 20 $ une fois. 20 $ deux fois. 20 $ vendus, mesdames et messieurs. Oh, monsieur dans le fond là-bas. Merci beaucoup. Alors, et un gros semaine d'applaudissements à Nick Davio à la console, s'il vous plaît. À tous nos chroniqueurs de 70%. Au VJ. Et on va passer le Yuki. La magnifique Caroline va passer le Yuki. Donc, s'il vous reste... de la monnaie, n'importe quoi, faut y mettre dans le trou de cul, c'est sa punition des enfers.
Il veut payer des vies! Oh! C'est ça dans le cul!
On a un numéro PayPal, passe-moi ça.
Alors, Tommy va m'arracher le micro parce qu'il trouve que je prends trop de temps. Il va nous parler du film de savoir ce soir, qui est Cyber Tracker 2. Non? C'est Cyber Cop 2? Cyberg, comme la laitue? Ouais, je suis là-dedans. Non, c'est moi qui est là, je le garde.
Merci à Étienne Lapointe pour la cam, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je ne parlerai pas longtemps. On a écouté il y a quelques semaines quelque chose qui s'appelait Roboflick 2, version française de Cyber Tracker 2. C'est pas la même affaire que Robocop 2. Et ce soir, on a Cyborg Cop 2. C'est sorti l'année d'après Terminator 2, donc vous allez reconnaître beaucoup de concepts qui ont comme été faits avec des boîtes de lait puis des caisses d'œufs, genre, tu sais, là. Le bricolage, c'est bien pour l'imagination. Le film de ce soir, c'est un petit peu comme Universal Soldier. Il y a un gars, ils vont mourir, puis là, ils vont le ressusciter en cyborg froid qui va obéir aux ordres. Parce qu'il y a une casquette sur la tête. Et dans la casquette, il y a des circuits électroniques importants. Et les circuits électroniques importants permettent de contrôler le cyborg, blablabla. C'est un long métrage avec David Bradley. Je pourrais vous en parler longtemps de David Bradley. C'est un des 5 êtres humains de sexe masculin avec qui j'aurais du sexe. Si je pouvais donner un enfant, genre. David Bradley, c'est quelqu'un de conséquent. Vous allez tout de suite remarquer sa petite tendance où je suis pas en train d'acter, mais, tu sais. Ah, c'est beau, là. David Bradley, c'est quelqu'un d'unique et tout le long métrage de ce soir, c'est une poursuite en char avec lui qui acte.
C'est sûr qu'Astor est rendu vendeur de chars usagés en banlieue de Los Angeles. Je suis pas sûr, mais c'est sûr. T'sais. Donc, Cyborg Cop 2, 1993, un an après Terminator 2, ça rajeunit personne. Et c'est un long métrage de Nu Image, qui est une filière de Roger Corman. Fait que tu le sais qu'ils ont coupé les coins ronds. Fait qu'à partir de maintenant, portez attention à ce qui se passe. C'est magique. Je vous le garantis. Merci d'avoir été là. Et juste ce qui va arriver maintenant, dès que je vais arrêter de parler, il va y avoir un nouvel indicatif pour célébrer notre 8e anniversaire. Une gracieuseté de Bruno de Coninck. Vous allez voir, c'est vraiment hot. Let's go, Nick! Passe ça!